Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte des DNVB, ou Digitally Native Vertical Brands, ces marques nées en ligne et dont le modèle économique révolutionne aujourd'hui le e-commerce. Et pour en parler, derrière le micro, c'est Viviane Lipskier, experte du sujet et autrice du livre « DNVB, les surdoués du commerce digital ». Après plus de 15 ans de carrière dans les médias, Viviane a fondé Brand Alchemy, un studio par le biais duquel elle conseille les entreprises dans leur stratégie d'hybridation. Dans cet épisode très dense, on a discuté du modèle Digitally Native, des avantages et des risques pour les marques à opérer sur des canaux digitaux, mais aussi des nouvelles tendances de consommation qui appellent aujourd'hui la plupart des marques à réinventer leur modèle. Bonne écoute! Salut Viviane!
Salut Noémie, merci pour ton invitation!
Avec plaisir, merci de l'avoir accepté et puis bienvenue dans The Storyline!
Ah ben c'est un plaisir et un honneur!
Plaisir et honneur partagé! Pour commencer, peut-être je te propose qu'on parle un peu de ton parcours et de tes expériences. J'ai l'impression que tu as une carrière bien remplie, que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat, et histoire qu'on sache un petit peu ce qui t'a amené à ton projet actuel Brand Alchemy.
Ah oui, c'est vrai que bon, je vais faire court quand même parce qu'on peut y rester un petit moment. J'ai une formation de juriste et d'historienne de l'art à la base, et je me suis vite aperçue après avoir exploré, c'était ma grande passion l'histoire de l'art, mais après avoir exploré tous les métiers possibles dans cet univers, que en fait ce qui me passionnait c'était de raconter des histoires, c'est vraiment ce qui m'anime, et du coup j'avais rapidement, je me suis retrouvée à la radio, hein, Radio France, sur Inter. Alors je racontais pas d'histoire, hein, j'étais vraiment tu vois, sous fifre Inter, mais c'était passionnant, mais quand même c'était pas dans mon domaine de prédilection, et à ce moment-là il y avait une émission sur Arte qui s'appelait Palette, que je trouvais absolument remarquable, où en fait c'était la première fois qu'on rentrait dans des œuvres d'art avec des micro-caméras chirurgicales, et on décrivait en fait l'œuvre d'art par le trait, en fait par la main, le geste, les repentis, c'est-à-dire ce qui existe sous ce qu'on peut voir, là où l'artiste est repassé, etc. Et je trouvais ça absolument passionnant, donc j'ai appelé le producteur, j'y connaissais vraiment rien ni aux médias ni à la télé, j'avais pas de télé chez moi d'ailleurs à l'époque, et le producteur, en fait, j'avais trouvé sur mon Minitel, m'a gentiment répondu que en fait lui pouvait pas faire grand chose pour moi et qu'il fallait que je voie avec Arte, en fait, que c'est là-bas qu'on créait les programmes. Et c'est comme ça que je suis rentrée, en fait, à la télévision publique. Ouais, je suis rentrée chez eux. Okay. Et je suis rentrée à un poste qui était hyper intéressant, en fait, qui était administrateur du cinéma d'Arte, parce qu'il y a une filiale cinéma Arte, Arte France Cinéma, ça s'appelle. Et à partir de là, Arte était à l'époque diffusée sur le même canal de diffusion que la 5e, qui est devenue la 5, et puis ensuite France 5. Donc ça m'a permis, en fait, de rentrer à France 5 et de faire une carrière assez longue de plus de 15 ans à France Télévisions, où pendant 2 ans et demi, j'ai eu l'opportunité, la possibilité de changer à peu près d'emploi tous les 2 ans et demi, 3 ans, et de gravir les échelons et de me retrouver en fin de carrière comme adjointe de la direction de France 4, puis de France 2, puis à la direction de l'innovation du groupe. Donc des postes qui étaient absolument passionnants, et qui étaient des postes à la fois des postes d'administration, si tu veux, d'opérationnel, de RH par exemple, mais à la fois aussi des postes où on avait en charge ce qu'on appelle les grilles de programmes, donc les différents programmes. Donc j'avais une vision vraiment très très complète, à la fois financière, à la fois opérationnelle et à la fois contenu. Oui. Et Bon, néanmoins, je suis partie en 2015 pour plein de raisons, des raisons personnelles, des raisons du fait que j'étais un peu épuisée de ce milieu que j'avais pas vraiment choisi. Mmh. C'est un milieu qui est quand même très en représentation. Et aussi, bah, surtout parce qu'il y avait l'arrivée de Netflix et que j'y croyais plus. Je pensais que, en fait, j'avais un attachement très, très particulier aux séries télé. Et je voyais bien qu'en France, en 2015, c'était très compliqué, hein, d'écrire des séries avec des saisons, tu vois, qui se renouvellent tous les ans, avec des bonnes arches narratives. Il manquait des métiers, en fait, qu'on connaissait pas en France. Mmh. Les métiers de showrunner, par exemple, le métier de, tout simplement, la personne qui va dialoguiste, tu vois, c'était des métiers qui avaient disparu. Et du coup, avant de partir de France Télévisions, j'avais quand même fait un projet d'atelier d'écriture de scénario. Mais c'est bon, ça n'a pas abouti parce que, et je pense que ça n'aboutirait même pas aujourd'hui. C'était pas une question, il y avait plein de questions. Il y avait des questions juridiques de droit d'auteur versus copyright américain, enfin des questions techniques comme ça. Et il y avait des questions de lobby de producteurs, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de partir. Et ce qui m'avait intéressé, c'était qu'en termes d'annonceurs publicitaires, à France Télévisions, on avait beaucoup d'annonceurs du luxe qui avaient envie, eux, de raconter des belles histoires et de sortir un peu du schéma publicitaire traditionnel.
D'accord.
Et je me suis dit, ben, eux, peut-être, ça serait mes futurs clients, je pourrais travailler avec eux. Mmh. Mais le truc, c'est que j'y connaissais strictement rien au luxe. Donc j'ai décidé, puis j'avais besoin d'un break, tu vois, au bout de 17-18 ans de carrière.
Mais c'est vrai qu'en plus, si je peux me permettre, je me souviens que les années 2000, les années 2010, le début, dans les médias, on s'est pas du tout rendu compte de ce qui nous arrivait sur la tronche. Personne croyait vraiment au streaming. Moi, j'étais chez Canal+ en stage en 2013 ou en 2012. Je me souviens très bien que c'est l'époque où Canal était en train de se faire un peu bouffer de tous les côtés par Netflix sur qui concurrençait sur la VOD. Canal+ avait une plateforme qui était pas très moderne. Sur les droits du foot avec beIN Sports qui arrivait aussi. Enfin, c'était une époque où les médias étaient ultra sous pression. Que ce soit les chaînes France TV ou les acteurs privés, il y avait une sale ambiance hein, dans les
avec dans les des chaînes. Oui, t'as tout
ça
à fait raison.
Ça a dû être épuisant en fait.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, il y avait un déni, une incompréhension globale, et puis il y a pas de solution simple si tu veux, parce que c'est le média télé est un média qui est sur lequel qui est très encadré en fait.
Bien sûr.
Tu peux pas faire ce que tu veux du tout, et donc créer des groupes qui ont des forces de frappe, c'est toujours le sujet d'ailleurs, hein, créer des groupes qui ont une force de frappe suffisante aujourd'hui vis-à-vis d'acteurs aussi gros que ceux-là. Mais il n'y a pas grand monde qui est résisté partout dans le monde. Si tu regardes bien, il y a de télé très très puissantes qui résistent aujourd'hui à des Netflix ou à des Amazon Prime. C'est quand même assez compliqué. Mais c'est vrai que, du coup, moi, c'est là où tu as parfaitement raison par rapport à mon parcours, c'est le déni m'a vraiment ennuyé. Parce que si tu veux qu'on sache pas faire et qu'on se questionne et qu'on essaie de trouver des solutions, c'est une chose. Oui, c'est mais qu'on ne veut pas voir, c'en est une autre.
Ouais, je suis d'accord.
Et moi, j'avais vraiment l'impression de taper la tête contre les murs. Tu vois, je voyais quand même qu'il y avait que Canal, ils arrivaient à faire Borgia.
Oui, oui.
Parce qu'ils étaient allés chercher des ressources à l'international, parce qu'ils ont envoyé des ressources aux États-Unis pour apprendre les métiers. Mais sans dénigrer mon employeur de l'époque.
C'était
exactement.
Pas très...
Voilà, c'est le service public aussi, hein, donc c'est une autre lourdeur. Et puis avec des cibles qui ont toujours été beaucoup plus vieilles. Donc bon, voilà, tout ça fait que donc, je me suis retrouvée à l'exécutive MBA de l'IFM. Et en fait, c'était pas du tout l'endroit où j'aurais dû être, je pense. Enfin, c'est l'endroit où je devais être, puisque j'y étais. Et que ça m'a amené ailleurs. Mais en tout état de cause, j'ai eu assez vite envie de partir parce que, si tu veux, je me suis rendu compte que je suis pas une modeuse, moi.
Je précise que l'IFM, c'est l'Institut français de la mode, si je dis pas des bêtises.
Exactement, exactement.
Et d'ailleurs, Borgia, c'est une série originale qui avait été créée par Canal+, en 2011 ou 2012 et qui avait fait un carton.
Voilà, oui. Merci pour la parenthèse.
Fin de la parenthèse.
Pour ceux qui s'en rappellent pas. Et en costume et tout, c'était un truc énorme.
C'était ouf. Il y avait un gros succès, je me souviens. J'avais des affiches partout dans ma chambre à l'époque.
Et donc, si tu veux, à l'IFM, pour faire court, non seulement j'étais pas une modeuse, mais en plus, quand on est allé visiter les usines en Chine, vraiment, les bras me sont tombés, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi ce système qui marche sur la tête, en fait? D'abord, les conditions de travail sont monstrueuses. Parce que même si ce sont des... Nous, on a visité que des usines modèles, hein, je te rassure. On nous a jamais traînés dans des usines pourries. Mais même là, si tu veux, une usine de jeans, c'est juste l'enfer sur Terre. Les conditions de travail sont horribles, il fait une chaleur à crever, ça sent les produits chimiques, enfin c'est vraiment affreux quoi. Et puis il y a un gâchis phénoménal, tu vois, de vêtements qui sont là, qui sont produits mais qui sont jamais réclamés parce que les marques surproduisent, surcommandent, et que la logistique c'est plus cher que le prix du produit. Donc le rapatrier, si on en a plus besoin, si on s'est trompé dans ses stocks, ça coûte plus cher. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, quand je suis rentrée, j'étais très secouée et j'y croyais plus du tout. Je voyais plus du tout ce que je faisais là. Et en même temps, je bossais dans une start-up tech comme CEO, et donc aux opérations.
Okay.
Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait des méthodes de Lean Startup. En plus, on avait visité les usines Toyota au Japon et ça, c'était vraiment passionnant.
Génial.
Donc, toutes les méthodes. Il y a vraiment eu des moments passionnants.
Ah ouais.
Et ouais. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir comme ça, mais qu'est-ce qui, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut réconcilier, en fait, ces méthodos très, très, comment dire, plus proches, plus frugales des startups, plus économes, de la mode? Est-ce que ça existe? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, donc je te parle de ça, c'était en 2016, et 2017 même, et j'ai commencé à voir qu'il y avait effectivement... ici ou là, d'ailleurs, une start-up à Hong Kong, pas mal aux États-Unis, en France, qui avait un espèce de schéma global. Et ce schéma global, en fait, c'était des marques, des start-up, donc qui avaient la même, qui ressemblaient à des start-up tech, sauf qu'au lieu de faire de la tech, c'est-à-dire qu'elles avaient les mêmes méthodes de conception de produits, elles avaient le même mindset, elles avaient pratiquement un peu les mêmes méthodes de financement, sauf qu'au lieu de faire des produits ou des services, enfin du hard, du service,
tech, quoi, ouais.
Du soft, de la tech, elles faisaient des biens de consommation. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Et c'est ce qui m'a amenée sur la piste des DNVB. Donc c'est là qu'en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle DNVB, les surdoués du commerce digital, chez Maxime. Je l'ai écrit avant d'avoir un éditeur, d'ailleurs, en me disant que puisque je parlais de digital, ben, je l'éditerais chez Amazon et je le distribuerais de manière digitale, ça me semblait logique. Et puis finalement, j'ai eu la chance, une fois qu'il était vraiment terminé, hein, d'avoir un éditeur.
Trop bien.
Je dis la chance parce que ça reste quand même un achievement dans la vie d'avoir écrit un livre papier.
Félicitations.
Là, il n'y a pas la même reconnaissance quand c'est un bouquin qui est édité à compte d'auteur chez Amazon ou autre. Que quand tu as un éditeur. Mais bon, ça, c'est...
Non, mais c'est clair. Oui, mais ça reste un bel accomplissement qu'un éditeur choisisse un sujet et un auteur. C'est très chouette. Félicitations pour ça. Et donc, du coup, DNVB, Digital Native Vertical Brands, c'est ça?
Exactement. Alors, moi, je ne dis pas digital, je dis digitally. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, ça change tout. Enfin, ça change beaucoup de choses. Dans le sens, si tu dis digital native, tu vas comprendre que c'est peut-être des startups qui s'adressent à la génération des digitally natives. Or, c'est pas du tout ça. C'est même pas du tout ça, en fait. Et c'est là qu'il y a un nombre d'incompréhensions illimitées. Digitally native, ça veut dire qu'elles naissent en ligne. Et quand on dit naître en ligne, ça veut dire la première manière dont elles vont, l'endroit où elles vont exprimer la culture de marque et vendre leurs produits et interagir, c'est en ligne. Donc, ça veut dire sur leur site e-commerce principalement et puis sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle de marques qui sont nées entre 2008 et aujourd'hui. Donc, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Mais ça veut dire aussi, c'est pas parce que tu nais à un endroit que tu peux pas ensuite aller te balader. Donc, ça veut dire qu'ensuite, elles vont aussi avoir différentes formes des canaux de vente physiques. D'accord. Et des canaux de marketing physique. Donc, d'où la compréhension, parce que souvent on dit les digital natives, elles sont que digitales, c'est des marques digitales. Non, il y a un autre modèle pour ça, c'est le digital only, ça existe aussi, mais c'est un autre modèle.
Mais le DNVB, du coup, d'accord. Donc c'est, mais en tout cas, sur les premiers mois, voire les premières années d'existence, c'est des marques qui vont, si j'ai bien compris, utiliser les réseaux sociaux et des canaux d'acquisition et de vente en ligne pour se développer et atteindre une taille critique entre guillemets.
Exactement, exactement. À la différence des pure players qui resteront comme vente privée, qui n'a jamais eu de boutique, par exemple. Alors, okay. L'autre grande différence, par exemple, tu peux me dire, bah, ok, bah, alors, c'est, par rapport à vente privée, c'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que c'est l'autre morceau de l'acronyme, vertical brand vertical, le business model vertical, ça veut dire que tu maîtrises toute ta chaîne de valeur, exactement comme Apple ou Zara. Hein, ouais. Zara est encore, même encore plus comparable, parce que Zara crée ses produits, les fabrique, les distribue uniquement chez Zara. Sauf que Zara, jusqu'à il y a peu de temps, leur site e-commerce, c'était un site vitrine, c'était pas très agréable d'y faire ses courses. Alors aujourd'hui, avec le passage des confinements successifs, c'est sûr que je pense qu'ils sont à peu près, ils doivent être à peu près à l'équilibre sur les deux
moyens de vente, ouais.
Moyens de vente, mais canaux, mais okay, no. En attendant, c'est ça qui fait la différence entre les deux.
Oui.
Donc, ensuite, Zara ne vendra jamais que chez Zara. Apple est vendu, tu peux trouver sur Amazon ou tu peux trouver, enfin les accessoires en tout cas, tu peux les trouver chez d'autres revendeurs. Donc, on se rapproche plus du modèle Digitally Native Vertical Brand.
Oui, et il y a même, si je dis pas de bêtises, une maîtrise de la chaîne de production qui va en amont de la distribution à la production.
Oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que là, on a parlé de distribution,
ouais.
mais on va parler aussi de désintermédiation. C'est-à-dire que donc les premières digital natives sont nées dans la mode. Donc c'est là qu'il y avait, je pense, le plus à faire justement pour aujourd'hui pour produire un jean, tu as à peu près 40 intermédiaires. Si tu pars du matériau brut, du coton par exemple, de la fibre de coton. Le coton, que tu vas en faire une fibre, que tu vas ensuite teindre, que tu vas tisser, que tu vas découper, enfin, sortir une pièce de tissu, tu vas la découper, tu vas l'assembler, tu vas mettre des rivets, tu vas la déteindre, enfin, etc., etc. Tu vas mettre des fermetures éclair, etc., etc. Donc là, tu vas à peu près 40 intermédiaires. À chaque niveau d'intermédiation, non seulement ça coûte de l'argent, mais en plus, tu perds l'information et la capacité à remonter toute la chaîne d'information et à savoir jusqu'à quel point de traçabilité, si tu veux, et de transparence.
Oui.
Ça, c'est un souci. C'est les premières digital natives dans la mode ont eu à cœur justement de prendre le contre-pied total de ce qui se passait dans la mode à cette époque-là. C'était suite à toutes les interrogations sur le Rana Plaza. Je ne sais pas si tu te souviens de ce scandale où... de l'effondrement d'un immeuble justement au Bangladesh fast fashion. Tu te souviens de ça?
Ouais.
Là où on s'est rendu compte, le monde ébahi s'est rendu compte que oui, il y avait des gens qui fabriquaient des t-shirts, qui étaient sous-payés, qui étaient dans des conditions de travail absolument déplorables et que le prix d'un t-shirt, ça pouvait jamais être 3 euros si tu tenais compte de tous les intermédiaires justement et du prix du travail.
Oui, celle-là. Ouais.
Mais sauf qu'il y avait une certaine opacité dans la mode et que c'était très très compliqué d'ouvrir. Enfin, les digital natives ont ouvert la brèche et ensuite le modèle s'est dupliqué sur absolument tous les biens de consommation. Alors aujourd'hui, tu as des sneakers, enfin, tu as de la mode, mais tu as de la joaillerie, tu as de la lessive, de l'épicerie, tout ce que tu veux en fait, à partir du moment où tu vas trouver des solutions pour faire différemment.
Oui.
Voilà. Et alors, ça n'est pas que le produit. La différenciation, c'est aussi la manière d'aborder le marché.
Ok.
D'aborder une cible ou d'aborder le marché qui est complètement différente.
D'accord. Et alors, je vais peut-être te demander, est-ce que tu as des exemples de DNVB connus, que ce soit en France ou à l'étranger?
Ah oui. Alors.
On parlera de cette approche du marché.
Alors, je pense, tout le monde connaît les DNVB sans le savoir.
Ouais.
Par exemple, Cézanne.
Ouais.
Est une DNVB. Tu vois bien que Cézanne. Distribue en ligne essentiellement sur son site de e-commerce.
À commencer par ses sites.
Nulle part ailleurs que sur ses sites de e-commerce, sauf dans ses showrooms. Elle a peu de showrooms. Il y en a un à New York, un à Londres, et il y en a combien ? 4 maintenant à Paris.
Ouais.
Et ses conciergeries. Qu'elle a mis en place un univers de marque qui lui est très particulier, qui s'appelle l'appartement, est présenté comme si on était à la maison, qui a un rapport avec les clients, qui a un rapport de fan absolu. Hein. Il y a des clientes, il y a des groupes Facebook qui sont consacrés, alors les Cézanettes, les Cézanadictes, et j'en passais des meilleurs, dans lesquels il y a des milliers de followers qui se parlent entre elles, oui. Qui ont créé un marché secondaire de revente entre elles, qui regardent de très très haut d'ailleurs les ventes sur Vinted, par exemple.
Ouais.
Donc ça c'est je pense que tout le monde connaît à peu près Cézanne et on voit bien le modèle là. Et pour les hommes, ben il y a Bonne Gueule qui est l'équivalent, qui était là avant d'ailleurs.
Ouais.
Si tu regardes sur du côté de la cosmétique par exemple, je pense que toutes les filles connaissent Glossier. Ben, de la même manière, Glossier qui est né du blog Into the Gloss d'Emily Weiss, qui était une ancienne rédactrice de Vogue US. Et qui a écouté en fait, qui a écouté ses lectrices, elle leur a demandé quels étaient les produits qui manquaient et qui a créé les produits qui manquaient à sa communauté et qui a créé Glossier. Glossier n'est vendu que chez Glossier et il y a une boutique. Donc là, ils sont en train de remonter. Ils avaient fermé tout leur parc retail. Ils avaient huit boutiques, je crois, aux États-Unis,
ah ouais.
Une à Londres. Et là, donc c'est reparti. Ils ont relevé des fonds pour ça, mais c'est des endroits où il y a une expérience de marque qui est très très singulière,
ouais,
ne ressemble qu'à la leur, en fait. Donc là, en France, par exemple, ben, tu as Seasonly, si tu connais.
Oui.
Qui est, voilà. Donc,
une marque de cosmétiques clean qui a été lancée par l'ancienne cofondatrice de My Little Paris, c'est ça?
Mais tu es formidable, voilà. exactement. Et pour les garçons, ben, tu as Horace. Qui a ouvert il n'y a pas longtemps sa première boutique dans le Marais. Alors, tu trouves les produits Horace qui sont distribués dans Concept Store. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il n'y a pas de. En fait, à partir du moment où. Normalement, à l'origine du business model aussi, c'était de se dire si on a moins d'intermédiaires, on peut vendre au prix plus juste. On va faire moins de marge. Mais comme Internet, et c'est moins cher de vendre sur Internet, globalement, et qu'à l'époque, le coût d'acquisition client. Sur le digital, sur Facebook, n'était pas aussi important qu'il l'est aujourd'hui, tu pouvais te permettre de dire je vais vendre mes produits, des produits meilleurs au même prix.
Voire moins cher.
Moins cher ou au même prix, mais en tout cas, de meilleurs produits pour le même prix. Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, parce que bah, les coûts d'acquisition sont. Il y a beaucoup plus de concurrence, les coûts d'acquisition sont plus importants, etc. Mais du coup, tu peux. C'est-à-dire, en fait, tu as deux choix. Par exemple, quand Cézanne va au bon marché, ils n'y vont pas pour faire du volume ou pour faire. Je ne pense pas que ce soit là qu'ils fassent leur meilleure vente, si tu veux, leur meilleur chiffre. En revanche, ils y font du marketing, ils y font de la visibilité, ils y font de la notoriété. Et ensuite, comme les collections qui sont présentées sont juste, c'est juste un échantillon, on va dire, par rapport à ce qui est présent sur le site, les gens iront de toute façon sur le site. Et c'est ça, en fait, la force du modèle Digitally Native verticalement. C'est ça, en fait, c'est de ramener les gens vers la vente digitale qui, normalement, revient moins cher parce que, si tu veux, tu n'as quand même pas besoin d'avoir un pied de porte, tu n'as pas besoin d'avoir des vendeurs, un directeur de boutique, etc., etc.
Bien sûr.
Tu peux scaler, tu peux aller à l'échelle en ayant quand même beaucoup moins de monde.
Ouais, ça c'est intéressant et c'est une des forces des DNVB. Tu disais aussi, avant que je t'interrompe pour les exemples, qu'elles ont une approche particulière de leur marché.
Oui, alors la manière d'aborder le marché, alors c'est pas tout le temps vrai. Hein. Alors il faut quand même que je fasse une petite parenthèse pour te dire que aujourd'hui on appelle. Tout ce qui naît aujourd'hui, toutes les marques qui naissent aujourd'hui sont des DNVB. Il n'y a plus, je pense qu'il y a une certaine, tu sais, il y a des mots à la mode, donc c'est un buzzword, et puis c'est vrai que ça fait vendre, ça fait parler. Donc aujourd'hui, une indie brand qui a juste un site internet et un compte Facebook et qui n'a même pas dans son équipe acquisition manager, e-commerce manager, etc., elle va quand même être une, tu vois, elle va quand même, on va quand même dire que c'est une DNVB.
Ouais.
Donc là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une croissance vraiment incroyable. Il y a des jolies marques, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste, on parle juste de business model. Là, hein. Pareil, il y a des marques d'influenceurs qui s'envolent comme une, vraiment comme, un feu de camp, tu vois, c'est énorme. Mmh. On entend parler d'un coup, il n'y a plus que ça. En fait, derrière, tu as souvent des grands groupes industriels qui proposent à une influenceuse de lancer une marque. Marque qui va être revendue extrêmement vite. Et c'est un coût, en fait, coût marketing. C'est une marque qui va durer 3-4 ans, pas plus. Donc ça, c'est pas une DNVB non plus.
Oui.
Donc il faut distinguer, tu vois. Une DNVB, c'est vraiment une start-up qui va pouvoir se caler derrière, monter à l'échelle et aborder son marché. Alors une fois que j'ai dit ça, effectivement, il y a comment on aborde le marché. Donc les grands groupes traditionnels, en termes de marketing, ils sont sur le segment masse. Ouais. Alors, plus ou moins mass market, plus ou moins luxe, mais ils vont quand même essayer d'aller capter des grands marchés. Du coup, quand on dit ça, on dit qu'ils vont aussi desservir un certain nombre de personnes. Parce que, en termes de marketing, c'est pas facile de communiquer, parce que ça fait de la longue traîne, parce que, pour plein de raisons. Donc, tu peux avoir, par exemple, les tailles XXL ou les toutes petites tailles. Par exemple, est-ce que tu connais des marques aujourd'hui qui adressent les personnes qui font aux alentours d'un mètre cinquante ou moins? Et tu sais, s'il y en a, je crois que c'est 30% de la population.
Wow.
Pour les femmes. Est-ce que tu connais... Enfin, il n'y avait pas à l'époque de marques qui adressent spécifiquement le public afro-américain, par exemple, aux États-Unis. Oui. Alors que là aussi, tu es sur des marchés qui sont considérables. Aujourd'hui, par exemple, on peut considérer que le marché de l'adolescent est sous-adressé. Le marché qu'on dit senior et qui n'est pas si senior que ça, parce qu'à 50 ans, crois-moi, t'es pas un senior, qui est toujours représenté par des vieux cheveux blancs d'ailleurs, hein, je comprends pas pourquoi. tu vois, ça fait rire. Après, il y a aussi des marchés dont les mécanismes sont liés au capitalisme. Par exemple, à l'obsolescence programmée. Donc, les ampoules électriques. Les collants, je suis sûre que tu as plein de modèles, en fait. L'électroménager, tu vois, ton iPhone, le modèle est vraiment lié à une programmation, une mort programmée de ton produit qui n'a plus aucune raison d'être. La raison d'être de l'obsolescence programmée, c'est les petits génies sortis de guerre qui disent, c'était même pas de guerre, c'était de récession américaine, crise de 29, qui disent si le produit a une durée de vie moins importante, les gens rachèteront plus facilement, plus vite, et ça nous permettra de relier avec la croissance. Donc alors, ça, c'est un discours qu'on pouvait peut-être entendre dans les années 30-40. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout audible.
Oui.
Tu vois. Donc là, ça a donné naissance, par exemple, Dollar Chef Club, qui a un modèle du genre en termes de à la fois de business model et à la fois en termes de communication, marketing et de lancement de produits, qui, je pense, est étudié maintenant dans toutes les business schools du monde, et qui a dit, il n'y a pas de raison, on peut faire le modèle Gillette, lame et rasoir. C'est le modèle où, en fait, tu dépenses pas cher pour ton rasoir, mais tu dépenses une blinde pour tes lames que tu vas devoir renouveler. C'est le modèle du consommable.
Oui, bien sûr, mais dans une époque où, en fait, on est dans une prise de conscience écologique, c'est un discours et un modèle qui ne peut plus exister.
Donc, dans ce contexte-là, tu peux repenser énormément de marques et de produits, surtout que les DNVB, on commence toujours monoproduits. Elles vont asseoir un marché sur un monoproduit. Donc, les possibilités sont infinies, j'ai envie de te dire. Malheureusement, c'est toujours pareil. L'innovation, la réflexion autour de l'innovation, elle est telle que dès que tu commences à innover, tu vas avoir des gens qui vont te copier. C'est vrai pour tout, dans tous les domaines. Finalement, tu vas atteindre sur le même secteur, là où tu étais le premier, sur les rasoirs ou sur les matelas, je parle de Casper, Teddy Bear et tout ça. Tu vas vite, en plus c'est facile, c'est assez facile de lancer une marque comme ça, tu vas te retrouver avec des marchés qui sont à nouveau saturés et où, à nouveau, le consommateur comprendra plus rien. Là où ton argument de vente était vraiment simple et clair à comprendre, s'il faut faire le choix entre 15, 20, 50 DNVB, là, ça redevient compliqué. Et puis, si tu rajoutes à ça que les grands industriels sont quand même pas complètement stupides, et donc, ils vont singer les DNVB, ils vont lancer des business units. Mais bien sûr. Donc, la maison du matelas, ils ont bien compris le truc, tu vois. Ils ont lancé, ça s'appelle Maison Albert, je crois. leur, ils ont lancé, tu vois, leur propre marque DNVB, sauf que c'est des matelas qui sont fabriqués en Chine, il me semble. Ou en tout cas, on n'en sait rien, tu vois, il n'y a pas de transparence, etc. C'est la même fabrication. Et là, le client, il a nouveau perdu. Et là, bah, c'est là qu'on voit la faiblesse quand même de... si jamais, enfin en tout cas, t'as pas le leadership, t'as pas des vrais arguments solides, il peut pas y avoir 15 acteurs concurrents sur le même marché en fait.
Mais c'est ça qui je trouve assez intéressant, parce que c'était une de mes questions pour toi, quels sont les avantages, les forces des DNVB, mais aussi quelles sont leurs faiblesses. Et au final, c'est rigolo de te dire qu'il y a un avantage qui est que c'est relativement simple entre guillemets de lancer une DNVB. Parce que bah, y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de construire une marque, un business en ligne assez rapidement et à moindre coût. Mais du coup, ça se transforme avec le temps en faiblesse, puisque bah, ça permet l'entrée de concurrents. Et du coup, il n'y a pas de barrières à l'entrée qui sont très élevées. Et ça,
c'est tout à fait exact.
Concurrence forte.
Tout à fait exact. Et du coup, c'est vrai que tes barrières à l'entrée... Si déjà ton produit à la base, il n'y avait pas de R&D dedans, s'il n'y avait pas une proposition de valeur qui était vraiment innovante, ça va être très compliqué de poursuivre. Mais c'est vrai pour tout lancement de
nouvelles marques, j'imagine, oui.
Oui, mais même dans le service, hein, tu vois, même dans le service.
Ouais, c'est bien sûr.
Ou dans le logiciel.
Complètement, non mais complètement, bah, en fait c'est un petit peu le truc, on développe des outils qui permettent de faire du no-code et qui permettent de faciliter de plus en plus la création digitale, du coup ça crée aussi une concurrence et une facilité d'accès, bah, mais du coup j'imagine qu'il y a un côté positif là-dedans, enfin, en tout cas moi, c'est ce que je crois, parce que ça force les marques à peut-être être plus créatives ou à imaginer des leviers un peu plus innovants pour aller adresser leurs audiences. Bah, comment exactement. Est-ce que tu vois le futur pour les DNVB et pour les marques globalement par rapport à justement cette saturation, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans The Storyline, que ce soit la saturation de l'information, la saturation des canaux marketing avec une augmentation des coûts sur le tracking, le retracking, etc., la saturation du consommateur qui en a marre de se faire harceler, qui en a marre de devoir faire des choix parmi 1000 offres dont ils ne sont pas si elles sont qualitatives ou non. Comment tu vois le futur pour les marques vis-à-vis de ça?
Bah, tu sais, moi, je vois toujours l'entreprise par le prisme des clients, des consommateurs. Mmh. Et comme tu le dis, les consommateurs, ils sont saturés. Ils ont envie de ralentir. Et il y a encore des gens qui ont envie de consommer énormément, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de consommer autrement et de moins consommer. Donc, c'est quoi l'avenir de l'entreprise si son objectif est la croissance illimitée, le chiffre d'affaires illimité, etc. Et là, on est dans un vrai sujet de société, en fait.
Oui.
On est vraiment dans un vrai sujet de société. Maintenant, moi, au quotidien, en même temps que j'ai écrit le livre, j'ai lancé une structure qui s'appelle Brand Alchimie, où je fais beaucoup de coaching, j'accompagne énormément d'entrepreneurs à différents moments de la vie de l'entreprise, de la start-up. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que pas mal me disent, moi, j'ai pas envie d'avoir une entreprise qui me dépasse. J'étais même hier avec une jeune femme qui a fait un burn-out parce qu'elle a lancé sa structure. Elle a rencontré le succès tout de suite. Elle a vendu à l'international tout de suite. Et elle s'est cramée. Elle s'est pas écoutée, elle s'est cramée. Et donc, elle a tout arrêté alors qu'elle était vraiment sur la rampe de lancement formidable. Mm. Elle a mis sur pause. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que j'ai besoin de ça, ou est-ce que je me dis, et tu vois, t'as une très belle marque française qui s'appelle Lamazuna, qui dit, bah en fait, moi je vais être capable de faire vivre 150 personnes, je vais être capable de faire des bons produits, ça suffit, pas forcément besoin de plus.
Ouais, donc il y a vraiment cette tendance de décroissance.
Je sais pas si c'est de la décroissance ou si c'est juste une croissance. Moi, la philosophie de décroissance, j'y crois pas trop. Je pense que c'est juste ralentir et adapter les modèles et faire mieux sans être dans une course de si tu veux, c'est pas parce que t'es que 150 et que tu fais que tu cherches pas à être partout et à chercher l'exit pour devenir millionnaire que tu peux pas faire du bon boulot. Je préfère le modèle Patagonia, tu vois, à des modèles qui vont être plus rapides, plus offensifs, plus agressifs, pour l'équilibre humain en tout cas. et pour la fierté que tu peux retirer de ton entreprise.
Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est plutôt une question d'avoir une approche un peu plus... Ouais. Mmh. Ok, génial.
Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Après, chacun, tu vois, après, j'entends très bien que... Et je suis tout à fait capable d'accompagner des gens qui vont me dire, moi, je veux lancer, j'ai cette idée-là. Mmh. Je sais que dans 2 ans, voilà, je vais être à tel endroit et revendre et faire autre chose.
Oui, ouais, bien sûr, dans chacun ses objectifs. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui est quand même de plus en plus forte, ce besoin de ralentir le... Enfin, on parle de slow content, de slow startup, de slow tout et n'importe quoi. Mais du coup ça se répercute pas mal dans les modes de consommation et de vente. Est-ce que...
Il y a aussi cette notion d'alignement et que aujourd'hui... tout un chacun, on a un radar, un détecteur à mensonges, tu vois, et on sent quand une boîte n'est pas alignée. Tu vois, moi je m'interroge beaucoup en ce moment. Tout le monde parle de métaverse, parle de développer des produits dans le monde digital. Ouais. Et en même temps, je vois donc des tas de marques de luxe qui s'y lancent en premier parce que ça coûte très cher. Alors ça coûte très cher financièrement. Mais ça coûte, un avatar, ça coûte super cher en énergie aussi. Oui. Donc, quand d'un autre côté, le groupe va te dire « Ah, mais moi, je suis très investie dans le développement durable, d'ici 2072, on sera complètement clean, machin », et que d'un autre côté, on développe tout et n'importe quoi, juste pour l'effet de mode, sur, tu vois, dans le monde de la métaverse, je me dis, dans le gaming et autres, je me dis, est-ce qu'on a bien tout réfléchi et quand est-ce qu'il va y avoir le retour de bâton ?
Ouais, c'est un vrai sujet. Ça, c'est aussi un peu la folie des NFT en ce moment. Et du coup, tout le monde est super content d'acheter, d'être propriétaire d'un NFT. Mais on parle très peu de l'impact et de juste la consommation d'énergie nécessaire pour créer des tokens sur la blockchain.
C'est fou, hein ? C'est énorme. C'est énorme.
Ouais, c'est vrai. Ok, bon, alors ça, c'était plutôt pessimiste, mais c'est la réalité et il faut qu'on en discute.
Oui, si on pouvait venir sur une touche. Non, alors c'est pas pessimiste, on est dans un moment où les gens se posent les bonnes questions, donc c'est sûr qu'il faut trouver des solutions, par contre.
Ouais, il faut questionner, il faut trouver des solutions, il faut prendre conscience, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais du coup, pour terminer sur une note peut-être un peu plus positive, tu me disais en off que tu es en train d'écrire la suite de ton premier livre que tu as écrit il y a 3 ans.
Oui.
Alors, c'est génial déjà, félicitations, ça doit être beaucoup de boulot, et que du coup, c'est un peu une mise à jour de ce sujet des marques digitally natives et... peut-être du futur un peu du B2C.
Oui, parce que c'est vrai que maintenant, tu vois, quand j'ai écrit le premier, on n'avait aucun recul, en fait, sur... le phénomène était trop récent et on n'avait pas d'idée sur comment ça allait se développer, quelles étaient les limites, justement, du modèle. Aujourd'hui, on a vu des introductions en bourse, on a vu des boîtes qui étaient remarquables du point de vue du discours, du point de vue des opérations, ou finalement qui se faisaient du tort au moment du scale et où finalement tu t'aperçois que celui qui lance l'entreprise, c'est pas forcément celui qui va pouvoir la diriger après. Il y a eu beaucoup de faux pas dans des boîtes américaines en particulier, mais on en a vu aussi en France. De fondateurs qui n'avaient pas une culture d'entreprise très saine, une culture de management très saine. Et du coup, ça peut, là où, justement, en fait, tes valeurs sont celles de la transparence, de la bienveillance et autres. Mais si t'es pas aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais, tu peux avoir une politique pour tes clients, mais si en interne, ton client interne n'est pas bien servi, là, tu peux avoir aussi des retours de bâton très, 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 très durs.
Oui.
Donc maintenant, on a ce recul nécessaire. Et puis, surtout, on vient de passer une période où le e-commerce, tout le monde s'est mis au e-commerce, en fait. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre une digital native, enfin, qui a développé son retail physique, et un retail physique qui a développé son e-commerce de manière très importante?
Oui, il y a ce côté un peu création de pont pour créer une expérience 360 degrés.
C'est ça. Donc là, aussi, il y a ce point qui est très important à aborder. Et encore un autre point, c'est que partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des DNVB. Partout dans le monde. De la Pologne jusqu'au Brésil, jusqu'à la Chine, l'Inde. Et c'est très impressionnant.
Oui.
Très impressionnant de voir que, par exemple, en Chine, Aujourd'hui, ces marques-là servent à remettre en valeur le patrimoine, le savoir-faire, les ingrédients locaux, à réengrammer le local, en fait. Tu vois, alors que nous, ça servait à justement à élargir, eux, ça sert à réintégrer.
Ouais. Et bah, du coup, pour rebondir là-dessus, comment est-ce que tu vois, toi, le futur un peu de la consommation ? On en a déjà un petit peu parlé en filigrane au long de l'épisode. On parle de consommation un peu plus responsable, de ralentissement. Est-ce que tu vois des grandes tendances dans la lignée du livre que tu es en train d'écrire ?
Alors, des tendances sur la consommation responsable, oui, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est évident que c'est même plus une tendance, quoi.
Bon, non, c'est plutôt un mouvement
de fond. On a côté de la plaque aujourd'hui pour ne pas faire attention à sa consommation. Mais enfin, j'entends quand même dans les customer discovery que je fais avec les marques, des fois des gens très intelligents et très éduqués qui te disent qu'ils n'achètent pas leurs fruits et légumes, qu'ils achètent du bio, du local, etc., mais qui consomme chez Zara parce que c'est espagnol. Ben ouais, ok. D'accord. Donc là, tu te dis, il y a encore du travail de pédagogie à faire. Après, la tendance que je vois pour, si tu veux, beaucoup plus moins anecdotique, c'est aujourd'hui, tu as des grands groupes peut-être traditionnels qui ont du mal à gérer des grosses marques mainstream. Tu vois, c'était la tendance des années 2000, d'avoir des marques qui correspondent, tu vois, où tu fais une marque de shampoing qui correspond aussi bien au public français qu'au public asiatique, qu'au public américain.
Ouais.
Tu vois, où c'est juste le marketing qui va à peine changer le dialogue, tu vois, la pub qui va changer.
Complètement.
Tu vois de quoi je parle. Fructis, tu vois.
Ouais, je vois.
Ces marques-là aujourd'hui, ça fonctionne plus très bien. C'est difficile de vendre globalement un produit.
Oui, c'est
donc, du coup, les grands groupes vont devoir gérer, créer elles-mêmes des marques plus locales, plus adaptées, avec des discours plus adaptés. Et en même temps, elles font face à c'est vraiment le début, mais on en voit quelques-uns. Des groupes qui se constituent et qui rachètent des marques directes consumer, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle les DNVB ailleurs qu'en France. D2C, alors tu l'écris D2C ou DTC, hein, mais c'est ça, c'est direct to consumer, qui est un peu plus large que DNVB. Et ces groupes-là vont rachètent des marques, les agrègent, les mutualisent pour en partie, et constituent des groupes qui vont être plus agiles et peut-être, hein, dans peu de temps, aussi ou plus puissant que les grands groupes qu'on a connus.
Oui, c'est une sorte de forme de bundling.
Exactement.
Pour peut-être simplifier aussi et répondre à cette multidiversité des marques.
Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de personnalisation. Je n'ai pas vu beaucoup de boîtes de personnalisation. Tu vois, quand on parle de personnalisation, on parle d'intelligence artificielle, d'algorithme et de t'offrir un produit qui ne soit qu'à toi. Qui te conviennent parfaitement. J'en ai pas vu beaucoup qui aient vraiment performé, réussi là-dedans, tout simplement parce qu'en fait, on est quand même un socle commun, l'humanité, et que même si on te fait des milliards de propositions, au final, tu auras 15% des propositions globalement qui vont être utilisées par l'ensemble des humains. Donc ça, c'est une vérité statistique. Donc finalement, on aura dépensé beaucoup d'argent pour faire des produits, tu vois, alors qu'il y a quand même... Bon, je ne dis pas qu'il faille revenir au générique, mais aujourd'hui, donc on n'est pas dans une forme de personnalisation, mais on est dans une forme, encore une fois, d'avoir des produits qui sont vraiment adaptés localement, qui parlent en termes de culture aux clients, qui les rassurent aussi en termes de, tu vois, si c'est un ingrédient local, si c'est un ingrédient ancestral, que ce soit en food ou en cosmétique, par exemple. Voire pour le textile, ben c'est une manière de... C'est très rassurant, en fait. C'est vraiment très rassurant.
Oui.
Et là, pour être plus dans l'anecdote, si tu parles de tendance en termes de qu'est-ce que je vois venir l'année prochaine, qu'est-ce qui va être l'ingrédient, le produit, je pense, c'est tout ce qui est la fermentation. Tous les produits fermentés et toute la cosmétique autour du microbiome de la fermentation, ouais.
Ok, donc, ouais, ça me fait penser au kombucha du coup, mais c'est pas
exactement le kombucha, absolument. Ouais, ouais, c'est le début.
Ah, bah, génial.
Ouais, voilà.
Ok. Voilà. Alors, je suis précurseur alors.
Ce que j'aime pas, moi, je comprends. J'ai jamais compris ce produit. Je comprends
oui,
les.
Là, effets, c'est, c'est un peu chelou. J'ai l'impression que c'est pas très bon, mais tu prends plaisir à le boire parce que comme c'est pas très bon, tu te dis ça doit être hyper sain.
Ah d'accord, ça fait partie des alicaments.
Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est mon ressenti par rapport à cet ingrédient. J'en bois de temps en temps, mais à chaque fois, je me dis, mais c'est vrai que c'est pas ouf en fait.
Non, c'est pas ouf du tout.
Je vois. Les consommateurs masochistes. Ouais. Nouvelle tendance.
Il va y avoir pas mal de choses qui, tu vois, de produits qui sont hors kombucha, qui vont utiliser. En fait, c'est des méthodes aussi ancestrales. Hein, la fermentation, c'est une méthode de conservation, tout simplement.
Ouais.
Mais qui correspond à des usages et qui dans lesquels on reconnaît maintenant les effets, comme tu disais, de bienfaits sur la santé, les bienfaits médicaux. Donc aujourd'hui, comme on est dans une époque de stress intense, en fait, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est ce qu'on appelle le caring, etc. Ça, et forcément, ça va tout ce qui renforce le sentiment de prendre soin de soi et des autres, le sentiment de sécurité, le bon sens, en fait. Sont à explorer dans les années à venir.
Ça, pff, oh là là, bon, ce sera un autre sujet, un autre épisode, mais tout ce qui est économie du bien-être et retour à justement cet argument, que ce soit dans la cosmétique, dans la pratique spirituelle, dans le développement perso, dans l'alimentation, de tout ce qui est un peu ancien, traditionnel, c'est vraiment, c'est dingue le retour ces dernières années. Enfin,
bon. En vrai, tu vois, tu parlais de décroissance ou de croissance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et dont pas mal d'économistes, qui pensent que en fait le sujet n'est pas la croissance ou la décroissance, mais que le sujet est de mettre le focus justement sur d'autres objectifs qui sont l'éducation, la santé, le bien-être, et que quand les gens sont bien, quand ils sont heureux, quand ils ont un minimum de revenus pour vivre et quand ils sont éduqués, déjà, ils font moins d'enfants. Donc, alors, moins d'enfants, on est d'accord, hein, on passe de 8 à 2. Mm-hmm. Mais disons que globalement, c'est un moyen de réfléchir autrement et de sortir de cette spirale de surconsommation, en fait, parce que là aujourd'hui on est vraiment dans un moment de surconsommation sans réflexion, en fait.
Ouais. Ah là là, que de choses à méditer.
Ouais, que de choses à méditer. Ouais. Mais je t'avoue que moi de temps en temps je m'interroge aussi, hein, quand j'accompagne les marques, je me dis encore une marque de, tu vois, de sneakers, ah bon, est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois. Mais chacune a sa raison d'être et y a beaucoup de gens qui créent des marques aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu thérapeutique.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a le côté, est-ce que la société a encore besoin d'une marque de sneakers ? Peut-être pas, mais est-ce que la personne qui crée cette marque, elle a des valeurs, une vision et elle a un besoin de se sentir utile et de partager une expérience ? Finalement, c'est marrant à quel point l'entrepreneuriat, il y a le côté, il y a une dualité, il y a un côté destructeur. Ça peut amener des gens au burn-out et vraiment à briser des personnes, mais ça peut aussi être une renaissance hyper forte.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je trouve ça légitime d'accompagner tous ceux qui veulent venir me voir, parce que ils ont tous une histoire à raconter, et au contraire, plus ils ont une histoire à raconter, plus je m'éclate, moi.
Oui, et puis si ça reste à l'échelle humaine, ça peut être une micro-marque qui va aider des consommateurs. Donc du coup, je retiens le retour à une échelle peut-être un peu moins ambitieuse.
Alors, oui, alors tu sais, après, je veux pas prolonger indéfiniment, mais si tu regardes aujourd'hui Circle, qui est vraiment, c'est une marque c'est une DNVB de vêtements de sport, c'est vraiment admirable ce que Romain est en train de faire. Lui, au contraire, il vise un marché international le plus gros possible, mais ce qu'il dit, c'est qu'il veut pas devenir le Nike, il veut pas que les gens rachètent, pousser les gens à racheter 1000 produits chez lui. Il veut juste qu'ils en aient un. Qui soit recyclable, qui soit réparable, qui soit recyclable, et que si chacun en a un, c'est bien.
Oui.
Tu vois, c'est d'autres manières de faire. Et là, par exemple, Circle, pour tous ceux qui ne connaissent pas, allez voir son site, allez voir son business model. C'est quelqu'un qui travaille énormément en R&D. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, je pense que ça serait pour toi un super invité, parce que cette manière qu'il a de travailler... son influence et son réseau avec des sportifs, avec des gens qui croient vraiment en son projet, qui ont envie d'investir dedans, Ouais. C'est vraiment pour moi une marque remarquable et à observer pour tout entrepreneur aujourd'hui.
Bah merci pour la recommandation, je note et j'irai voir ce qu'il fait et qui sait, peut-être dans les mois à venir, ce sera un invité du podcast.
Génial, j'écouterai avec plaisir.
Trop cool. Mais écoute, Viviane, je voulais te remercier. L'épisode a duré, c'est vraiment passionnant la conversation, j'aurais pu la continuer encore pendant des heures. Mais merci beaucoup pour tous ces insights, c'était vraiment très chouette, très inspirant.
Merci à toi, un grand plaisir encore une fois.
Trop cool. Bah écoute, je te souhaite une
storyline.
Merci. J'espère que ça continue d'inspirer les auditeurs et pour moi c'est toujours un plaisir, ça alimente des réflexions et des envies d'aller un peu plus loin dans le marketing éthique responsable et puis dans l'innovation sur ces modèles là merci, voilà, merci à tout le monde, merci aux auditeurs, merci aux invités,
merci aux auditeurs.
La minute gratitude. Salut. Alors, qu'avez-vous pensé du modèle DNVB ? Comme le précise Viviane dans l'épisode, aujourd'hui, la plupart des marques sont en réalité des DNVB, puisqu'aujourd'hui, il est non seulement impensable de se lancer sans avoir une présence en ligne, mais il est beaucoup plus simple et moins coûteux de tester l'appétence de son marché via les canaux digitaux et notamment les réseaux sociaux. Mais comme elle l'a précisé, et c'est ce qui me marque, les DNVB ne sont pas des pure players voués à rester 100% digital. Au contraire, ce modèle économique consiste à tirer parti des leviers de croissance et de scalabilité qui sont offerts par le digital pour grandir vite et bien, tout en créant un lien privilégié avec son audience, puis ensuite ouvrir des points de vente physiques. Mais attention, tout en préservant et en créant une expérience unique pour ses consommateurs. Et cette notion d'expérience d'achat et d'univers de marque, elle est aujourd'hui essentielle pour convaincre et fidéliser des consommateurs toujours plus sollicités. Des marques DNVB comme Cézanne, Teddy Bear, Bonne Gueule ou encore Seasonly l'ont bien compris et en ont fait un redoutable levier de différenciation par rapport à leurs concurrents. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans The Storyline.